7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, la prostitution des mineurs en France. C'est un phénomène encore largement méconnu, mais qui connaît une croissance exponentielle. Entre 6000 et 8000 jeunes filles, souvent de moins de 15 ans, vendent leur corps dans des chambres d'hôtel en région parisienne ou en province, en postant des annonces sur des sites de rencontres et avec le soutien de proxénètes à peine majeurs. Elles sont scolarisées, vivent en principe chez leurs parents, ne sont pas plongées dans la pauvreté. Autant dire que leur motivation constitue une énigme et interroge la société dans laquelle nous vivons. Nous allons en discuter avec les deux auteurs d'un documentaire sur ce sujet. Nadège Hubert et Claude Ardide, bonjour à tous
bonjour.
Les deux.
Bonjour.
Jeunesse à vendre est produit par l'agence Kappa. Ça a été diffusé sur la chaîne France 5. Ce sont de votre côté des mois d'enquête. Et puis aussi, quand on voit votre documentaire, ce sentiment d'impuissance généralisée du côté des services de police. On va comprendre pourquoi. Du côté des parents, du côté des relais sociaux. Et chez nous, à 7 milliards de voisins, Raphaël Constant, qui est dans le studio également avec nous. Bonjour Raphaël.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez, vous, recueilli, entre autres, le témoignage de mamans désemparées qui racontent leur cauchemar. Une chose est sûre, votre enquête, en tout cas à tous les deux, Nadège Hubert et Claude Ardide, interroge la société tout entière. Comment un pays peut-il fabriquer une telle dérive adolescente à l'heure de MeToo, d'une parole des femmes enfin entendue sur les agressions sexuelles, comment de très jeunes filles, elles, se retrouvent consentantes et à vendre. Et puis bien sûr, les voisins, vous pouvez réagir en postant vos messages sur notre ligne WhatsApp pendant l'émission au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Ça pouvait t'arriver de voir combien de clients chaque jour?
Ça dépend les clients qui m'appelaient. Ça peut être des fois 5, des fois 10. Ça dépend des jours.
C'est beaucoup?
Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Je me rendais pas compte.
Voilà un extrait de votre documentaire, Claude Ardide, Nadège Hubert, Jeunesse à vendre. Alors comment tout cela est possible dans un pays comme la France? Écoutez tout de suite les explications d'Armelle Le Bigot, qui est présidente de l'association Agir contre la prostitution des enfants, à Paris, au micro de Raphaël Constant.
Quand on parle de prostitution des mineurs en France, et à Paris en particulier, on ne parle pas de tous ceux qui aujourd'hui alimentent les imaginaires, à savoir ce qui se passe dans les banlieues, les tournantes, ça existe, et malheureusement c'est terrible. Mais ce terme de prostitution des mineurs sur Paris, ça recouvre une réalité assez hallucinante, dont on va dire, quand on en parle, les gens disent « non, mais c'est pas possible que ça existe », c'est quand même un sujet qui demeure assez tabou. Parler d'une sexualité dévoyée de nos enfants, c'est quelque chose qui dérange absolument. Et cette réalité-là, elle est tout à fait liée à des pratiques sexuelles qui concernent les jeunes d'aujourd'hui, et ces jeunes d'aujourd'hui sont alimentés par ce que fournit notre société, c'est-à-dire la consommation, l'accès aux médias et en particulier à tout ce qui se passe effectivement sur les réseaux sociaux et au développement de la pornographie très accessible pour les jeunes et liée aussi à ces comportements à risque des adolescents aujourd'hui. Ils ont touché à pas mal de choses, plus personne n'ignore aujourd'hui l'accès à la drogue, mais personne ne sait qu'il y a aujourd'hui des jeux qui sont des espèces de jeux sexuels qui ne sont pas considérés comme graves par les jeunes aujourd'hui et qui les amènent après, très vite, beaucoup plus vite qu'on ne le croit, à des comportements qui s'apparentent à de la prostitution.
Alors quand vous parlez de jeux, vous parlez de quoi et où est-ce que ça se passe?
Quand je parle de jeux, je parle de ce que tous ces gamins, on va parler de l'adolescence, de la petite adolescence, de la vraie adolescence, qui sont par définition des jeux autour du fait que je suis mal dans mon corps, je suis pas très bien dans ma peau, donc je vais me déguiser. Voilà, ça commence assez souvent comme ça, et j'ai des copines qui avec moi me disent « Ah ouais, tu vas voir, tu vas être belle, on va se maquiller, on va se prendre en photo. » photos, on va mettre ça sur les réseaux sociaux. Et elles arrivent sur les réseaux sans savoir qu'il y a des prédateurs embusqués. Et ces prédateurs, ils sont de toute nature et de tout poil. C'est des enfants qui ont besoin de se gratifier, de se mettre en valeur, qui sont fragiles, souvent des enfants très insérés dans la société, puis qui, tout d'un coup, à l'adolescence, perdent de confiance, tout d'un coup, je le répète, fragiles, entraînés par des copines, se mettent en scène. Et c'est très à la mode aujourd'hui, mais cette mise en scène peut effectivement être un piège terrible qui se referme très vite sur elle.
Comment on passe d'une jeune fille, d'une adolescente qui va à l'école, à une adolescente qui fugue et dont les parents n'arrivent plus à la retenir ?
Ben ça va très vite. Les parents, les trois quarts du temps, nous décrivent la bascule en l'espace de quelques mois. Vraiment quelques mois. Prenons les lovers boys ou les boys lovers. Une gamine tombe amoureuse d'un jeune homme. Ce jeune homme, assez rapidement, lui fait comprendre que les jeux sexuels, c'est juste voilà, quelque chose qu'on peut pratiquer aussi avec d'autres. En gros, la question est, si tu es amoureuse de moi, tu couches avec mon copain, enfin, tu fais ce que aimerait bien ton copain, une fellation ou autre chose, et tu te fais rémunérer, et cet argent me revient. Donc, la gamine amoureuse, hein, c'est pour ça qu'on les appelle les lovers boys, c'est la gamine amoureuse, se prête à des jeux que lui demande son petit copain. À l'arrivée, ça n'est rien d'autre que de la prostitution, effectivement, avec un jeune homme qui est un proxénète. Il faut ne pas avoir peur des mots, c'est un petit proxénète, mais c'est quand même un proxénète. Premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est quand même le plus fréquent et le plus compliqué à régler, on va dire. C'est ces gamines qui souvent se recrutent entre elles. Une première qui a sauté le pas, qui a peut-être perdu sa réputation dans le cadre scolaire et qui se dit, tant qu'à passer pour une pute, ben, je vais aller jusqu'au bout. Donc elle s'embarque dans des petits réseaux. Ça se passe effectivement avec des gamins qui sont à peine plus âgés que leurs victimes, qui effectivement en recrutent une, puis deux, puis trois. Et ces gamines, au début, c'est un jeu, comme je le disais, elles se retrouvent entre elles, on leur donne quand même un petit peu de pognon, hein, parce qu'au début, il y a quand même aussi cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on leur file un peu d'argent qui va leur permettre d'aller s'acheter des fringues, de se faire belle comme elles en rêvent. C'est un peu le côté call girl qui alimente leur imaginaire. Donc elles y vont d'ailleurs rarement toutes seules, hein. C'est toujours par deux ou trois, et puis une première qui leur dit tu vas voir, c'est pas grave, c'est génial. Et puis une fois qu'elles sont embarquées là-dedans, ça va très vite. Et c'est ça le sujet qui nous concerne à la CPE, c'est qu'on veut prévenir les parents qu'au début il y a des jeux sur internet comme ça, et puis qu'une fois qu'elles ont mis le pied dedans, là elles ont énormément de mal à s'en sortir, parce que ce qui est terrible à dire et à ressentir, c'est que ça joue un peu comme une drogue. Donc on arrive assez vite à des parents qui sont complètement dépassés, donc ils demandent de l'aide. Cette aide, ils ont du mal à la trouver, aussi bien au niveau des policiers qu'au niveau même des services sociaux. Et puis elles fuguent parce qu'on les lâche pas. Et qu'après ça, elles se baladent. Et elles se baladent en province, on les retrouve à gauche et à droite, on ne sait pas où elles disparaissent. Et c'est vrai que quand elles réapparaissent, elles sont la plupart du temps très amochées.
7 milliards de voisins, l'émission est consacrée à la prostitution des jeunes filles mineures en France. Oui, vous avez bien entendu, on est bien en France. Bonjour Raphaël Constant.
Bonjour Emmanuel.
Contrairement à la prostitution classique de rue, la prostitution de ces très jeunes filles n'est absolument pas visible au grand jour. Raphaël, vous avez rencontré une maman d'adolescente prostituée.
Oui, j'ai rencontré Sarah, la quarantaine, chez elle, dans une banlieue de la Petite Ceinture de Paris au mois de mai 2018. Frêle et presque à bout de nerfs à ce moment-là, elle m'a raconté l'histoire de sa fille et comment elle a tout tenté pour la récupérer. À l'époque, elles habitaient à Levallois-Perret, une banlieue plutôt aisée aux portes de Paris.
Ma fille a fugué pour la première fois à 14 ans. Elle n'est pas rentrée de la quatrième fugue. Quand elle est partie la dernière fois, elle m'a serrée dans ses bras parce que je partais travailler. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, elle m'a embrassée. Et je suis partie travailler et elle ne répondait plus au téléphone et elle était partie. Pendant les recherches, on a découvert qu'elle se prostituait et tout s'est effondré, évidemment, puisque déjà d'avoir un enfant qui est dans la nature, ça fait peur. Et de savoir que des hommes abusent d'elle du haut de ses 16 ans, c'est pire.
Et comment vous avez su que votre fille se prostituait ?
C'est les gens qu'elle fréquentait à ce moment-là qu'on a réussi à retrouver par les réseaux sociaux et le questionnement qu'on menait, qui nous ont dit, on l'a vue, mais là, elle est allée voir un client. Et après avoir posé 1000 questions, on a découvert qu'effectivement, le client, c'était quelqu'un qui payait pour le corps de ma fille.
Quand vous dites qu'elle est tombée dans la prostitution via le groupe de gens qu'elle fréquentait, c'était qui ces personnes? Des amis d'école, des proches, des gens qu'elle avait rencontrés sur Internet?
J'en ai aucune idée. Je ne sais pas d'où sortent ces gens-là, je ne sais pas comment elle les a connus. J'ai réussi à les retrouver parce que c'est une de ses copines qui nous a donné un numéro de téléphone et avec ce numéro de téléphone, on a réussi à remonter en faisant des faux profils sur les réseaux sociaux pour pouvoir piéger les personnes chez qui elle était. Mais je ne sais pas du tout comment elle les a connues. Le premier qui l'a hébergée, dont j'ai eu connaissance, on va dire, le gamin devait avoir 16 ans, ses parents étaient en vacances et... Son appart était un lieu de rendez-vous de mineurs qui se prostituaient, du coup, puisqu'il était au courant de tout, il savait où elles allaient. Alors, est-ce que c'était lui le proxénète? Je ne sais pas. Mais en attendant, il avait 16 ans et les filles étaient chez lui. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'elles passent d'un groupe à un autre, ici, ailleurs, en Bretagne, en Belgique, et je sais pas comment elle les rencontre, je sais pas comment elle se lie, j'en sais rien en fait, je sais pas. Elle a eu des contacts réguliers avec sa sœur, puis elle s'est mise à m'appeler moi, pour me dire qu'elle était plus heureuse qu'avec nous, que tout allait bien, qu'elle gagnait très bien sa vie et qu'elle préférait gagner ce que je gagnais moi en un mois, en un jour. À chaque fois qu'elle m'appelait, ça se terminait... pas très bien, puisqu'on n'avait absolument pas le même discours. Et elle n'a jamais voulu rentrer jusqu'au jour où, parce qu'elle était malade, elle est rentrée, on l'a soignée, et elle est repartie. Et depuis, elle a fait deux, trois allées-venues.
Qu'est-ce qu'elle avait?
Elle avait des champignons dans la bouche. Il y a des chances que ce soit dû à ses activités, mais elle nie, hein, elle nie, elle a toujours nié... Quand je posais des questions, elle ne répondait plus, en fait. Elle me disait que ça ne me regardait pas, que c'était sa vie, qu'elle la gérait comme elle voulait. Elle a envoyé un message par erreur qui donnait les tarifs de ses prestations. Donc, il n'y a pas de doute à avoir, c'est bien ce qu'elle faisait. Elle disait qu'elle faisait tout. Et elle donnait le détail de certaines prestations. Alors, la nuit, l'heure... la fellation, la sodomie, j'en passais des meilleurs. J'ai demandé l'aide de la police. Ils m'ont fait comprendre qu'il ne fallait pas écouter ce que disent ces pseudo-amis, que j'avais aucune preuve. Ils m'ont dit que comme elle ne pouvait pas décrire ni donner les noms, ils ne pouvaient rien faire. Et depuis qu'elle est partie la dernière fois, je pense qu'ils ont lâché prise, quoi, puisque ça fait 4 fois qu'elle fugue et que la police n'a pas que ça à faire d'aller courir après les jeunes fugueuses. Qui ne sont apparemment pas en danger puisqu'elles reviennent régulièrement.
Et est-ce que vous comprenez ce qu'elle est partie chercher? Est-ce que c'est de l'argent, c'est de l'attention, c'est du sexe, c'est des amis, de la liberté?
Elle a toujours dit qu'elle voulait être libre, qu'elle avait besoin de personne. De l'argent, j'en sais rien, puisqu'à chaque fois qu'elle est revenue ces dernières fois-là, elle n'avait pas un sou en poche. Donc est-ce qu'on lui prend tout ou... Elle a pas, elle a jamais eu d'article de luxe. Sincèrement, je sais pas. Je l'ai emmenée voir tous les psys et tous les éducateurs, des psys, des médecins. J'ai tout fait et aucun n'a trouvé pourquoi elle faisait ça, quoi. On a eu une discussion la dernière fois et elle me dit qu'elle connaît la vraie vie maintenant, que j'ai rien à lui apprendre puisque moi, ma petite vie est rangée avec mon boulot, mon appart et... tout ce qui va bien, c'est pas la vie pour elle.
Donc vous avez l'impression que ces modèles ont changé?
Oui, c'est ça. Ce qu'elle voit de la société aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, les téléréalités, et des filles qui, sous prétexte qu'elles se promènent à moitié nues, elles gagnent 5000 euros par jour. Alors ça, je l'ai entendu, et à rien faire et à avoir des relations avec des garçons qui font le buzz, donc ça suffit à rapporter de l'argent. Les clips de rap qu'elle regarde, dans lesquels les filles sont que des objets finalement faits pour embellir le clip. Et du coup, pour avoir cet argent que ces filles-là gagnent en tournant des clips ou en tournant des émissions, ben, elle s'est tournée vers la prostitution. Je pense qu'à un moment, j'ai arrêté de chercher à comprendre parce que c'est trop douloureux d'être seule pour se battre face à ça. C'était soit je faisais abstraction de ce qui se passait, soit je devenais dingue. Je veux juste qu'on fasse quelque chose pour qu'il ne fasse pas ça en toute impunité et qu'on ne nous prenne pas pour des illuminés quand on dit que notre enfant se prostitue, même s'il n'a que 16 ans. On n'est pas illuminé, on est juste face à notre réalité à nous.
Alors cette maman que l'on vient d'entendre, Raphaël Constant, que l'on appellera Sarah puisque c'est un nom d'emprunt, sa voix a été modifiée, sa fille aujourd'hui est majeure depuis le mois de juin.
Oui, tout à fait, ce qui signifie que sa mère ne peut légalement plus rien faire pour l'aider à sortir de la prostitution. Mais il y a quelques jours, la fille de Sarah est rentrée chez elle et a accepté avec sa mère de mettre en place un dispositif de réinsertion.
Alors on est dans un état de droit en France où les mineurs sont en principe protégés. La question c'est en effet que fait la police?
Alors justement, écoutez les explications du commissaire Vianney Dièvre, qui est le chef de la brigade de protection des mineurs de Paris. Pour lui, la prostitution n'est pas un délit en France. Son rôle, donc, à cette police de brigade des mineurs, est d'arrêter les proxénètes, mineurs comme majeurs, et les clients qui payent pour le corps des jeunes filles mineures.
Pour fixer les esprits, je peux vous dire qu'en 2017, à la brigade de protection des mineurs de Paris, nous avons été saisis de 90 dossiers de proxénétisme commis au préjudice de mineurs. Nous en avions 60 en 2016, 40 en 2015 et 20 en 2014. C'est-à-dire que nous avons une augmentation exponentielle des cas que nous avons à traiter, sachant que nous ne traitons pas directement la prostitution, mais nous traitons le proxénétisme qui est de fait toujours lié au phénomène de prostitution. Ces jeunes filles mineures ayant besoin de ce que je qualifierais de support logistique pour assurer l'intendance, la location de chambres, la location de logements. Alors ça peut être des hôtels de banlieue, ça peut être des appartements type Airbnb, et d'assurer la logistique, la surveillance, la protection, l'acheminement en voiture, et éventuellement les produits stupéfiants.
Et comment s'organise cette prostitution des mineurs alors à Paris?
Actuellement, c'est par le biais d'annonces sur des sites de rencontres. Sur des sites de rencontre, la jeune fille poste une annonce, bien entendu elle dit qu'elle est majeure, elle met une photo aguichante d'elle-même en tenue légère pour attirer la clientèle et ça propose des rencontres. Le côté vénal est à peine voilé. Une des caractéristiques de ces affaires, c'est évidemment que nous avons affaire à de jeunes adultes ou à des mineurs et c'est souvent caractérisé par donc l'immaturité qui préside aux relations entre les uns et les autres. On a eu beaucoup d'affaires dans lesquelles il y a des associations très éphémères, qui peuvent même parfois durer moins d'une semaine, une semaine à quelques mois, et avec des proxénètes différents. Avec une jeune fille qui commence avec un ami, qui lui loue la chambre de Formule 1, un autre qui passe l'annonce, un troisième qui l'accompagne, et puis finalement elle ne s'entend plus avec un des trois comparses, donc on en choisit un quatrième qui apporte sa pierre à l'édifice, ce qui fait que les réseaux sont protéiformes, ils ne sont pas structurés, pas organisés, et on n'a pas affaire à du banditisme de haut vol. On est dans la dispute de cours d'école, sauf qu'on est dans un vrai phénomène grave avec de l'argent, avec des relations sexuelles et avec de la marchandisation du corps.
Et comment vous faites justement pour mener ces enquêtes si cette prostitution est si peu organisée ?
Il faut d'abord avoir accès à l'infraction. Et donc il faut que nous ayons connaissance qu'une prostituée est mineure et qu'il y a des proxénètes derrière. Alors ça peut être soit le gérant d'un hôtel qui appelle parce qu'il y a un va-et-vient incessant dans les chambres qui gênent les autres clients, mais si c'est un appartement loué de type Airbnb, ça peut être des voisins qui considèrent la situation comme étant insupportable, ça peut être la jeune fille elle-même qui, alors que ça se passe mal avec le proxénète, vient dénoncer les faits, ou ça peut être des parents qui sont à la recherche de leur enfant fugueur, dont ils ont retrouvé la trace et qui viennent signaler à la police qu'ils estiment que leur enfant est entré dans un réseau de prostitution.
Quand les parents viennent vous voir une fois, deux fois, trois fois, parce que généralement on est face à des cas qui se répètent, en vous disant qu'ils savent que leur jeune fille se prostitue, qu'est-ce que vous leur répondez ?
Quand des parents disent à la police « protégez mon enfant et empêchez-la de se prostituer », c'est quand même très compliqué pour des services de police de garder la jeune fille à disposition des parents. on est un peu en peine de leur expliquer ce qu'il faut faire. Mais même la question est-ce à nous de leur expliquer ce qu'il faut faire pour éduquer leur enfant ?
Nadège Hubert et Claude Hardy, dans votre documentaire, vous avez interrogé pas mal les services de police de la brigade des mineurs. On les sent eux-mêmes complètement déstabilisés en fait par ce phénomène qui est très récent.
Oui, et il y a aussi la limite de la loi. C'est-à-dire que, comme il nous expliquait, il y a le code pénal et ils ne peuvent pas aller au-delà.
Alors, si ce n'est que là, aujourd'hui, maintenant, avec la loi Schiappa, dans l'article 2, tel qu'il a été voté, Claude Hardy, la contrainte morale peut être caractérisée, parce que là, évidemment, c'est de la prostitution, il n'y a pas de contrainte, il y a de l'échange d'argent, mais elle peut être caractérisée par la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits. Or là, il se trouve que ce sont des filles, souvent de moins de 15 ans, qui ont des relations tarifées avec des hommes de plus de 50 ans, parfois.
Alors, moi, je vais être très franc avec vous. C'est-à-dire que ce documentaire, on a travaillé pendant 2 ans dessus, on a rencontré beaucoup de témoins, des magistrats, des filles, des parents, des gamines, etc. Bon, la loi Schiappa, je n'y crois pas une seule seconde. C'est-à-dire que depuis que ce doc a été diffusé, nous, on était plein d'espoir. On s'est dit, ça va peut-être faire bouger les choses auprès des politiques, auprès de l'aide sociale à l'enfance, auprès des magistrats, auprès... pas des flics, parce que les flics sont désemparés face au phénomène. Mais en fait, il ne se passe strictement rien. C'est-à-dire que l'omerta, la chape de plomb qui pèse sur la prostitution des collégiennes françaises, l'omerta n'a jamais été aussi violente. Souvent, moi, pour expliquer aux gens qui me disent « Mais de quoi tu nous parles ?» Ils imaginent que c'est une prostitution qui vient d'ailleurs. Je leur dis « Non, ce sont nos enfants. Ce sont nos gamines. » Et j'ai le sentiment, on a fait une projection au conseil régional, il y avait des politiques, moi je les ai un peu tensés, Nadège 2, c'est-à-dire que la présidente du conseil régional qui devait être présente n'est même pas venue, elle s'est excusée, etc. Donc nous,
c'est
pas
vraiment un sujet incroyable. Qui dérange parce que tout milieu sociaux.
Parce que ça concerne tous les milieux sociaux, ça concerne des gamines qui sont de plus en plus jeunes, parce qu'on ne sait pas comment traiter ces problèmes-là. C'est-à-dire que le vrai problème, si vous voulez, c'est quand nous on s'attaque à l'éducation nationale pour essayer de comprendre ce qui se passe dans les écoles, dans les collèges, on comprend que les infirmières ont des informations de gamines qui sont en état de souffrance. On voit des assistantes sociales, on voit des profs. Nadège, elle a fait un travail considérable auprès de
mais
tous les rectorats.
Mais beaucoup ont refusé de parler parce qu'ils n'ont pas le droit non plus.
Et donc un jour, on a même fait, c'était organisé par la ville de Paris, il y avait une sorte de séminaire de réflexion qui était à la ville de Paris. On a vu 200 travailleurs sociaux, des éducateurs, des psys, des membres des infirmières scolaires, des assistantes sociales. On leur disait, mais pourquoi vous ne parlez pas puisque vous le vivez et que vous êtes en liaison directe avec ces gamines qui souffrent, etc. Et tout nous disait, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de barrage administratif, une espèce de devoir de réserve, une sorte de secret professionnel. Et donc vous butez, mais vous leur dites là, non, c'est pas possible, c'est la santé des gamines, c'est une affaire de santé publique aujourd'hui nationale.
Et d'un trafic, parce que c'est un trafic en croissance exponentielle, rien à voir bien sûr avec le trafic de drogue en termes de chiffres, mais c'est un business qui rapporte pour les jeunes garçons qui protègent ces filles.
Alors, il y a le business qui rapporte de l'argent aux garçons, mais il y a le business qui rapporte de l'argent aussi aux gamines. Alors, ce n'est pas leur préoccupation essentielle, parce qu'au départ, quand elles démarrent, elles font ça entre copines. Et elles établissent des espèces de tarifs sur les réseaux sociaux. Alors, 200 euros, 300 euros, 400 euros, en fonction évidemment des prestations. Mais ces gamines, elles jouent avec ça. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore de protecteurs, elles n'ont pas de petits macros, comme on disait auparavant. Elles n'ont absolument pas le sentiment d'être prostituées. Elles n'utilisent jamais le terme de prostituée. Donc, elles sont dans le jeu, elles sont dans une espèce de reflet social où elles jouent avec leur image sur les réseaux sociaux.
Mais du côté des jeunes garçons qui les protègent, puisque très vite, elles ont besoin d'un protecteur pour éviter les mauvaises rencontres, est-ce qu'on pourrait parler d'une extension du deal de cannabis, puisqu'on a beaucoup dit ces derniers temps que le proxénétisme est en plein développement, notamment dans les quartiers où il y a du trafic, que le trafic de drogue est très surveillé par la police et qu'on risque très peu de choses en tant que jeune garçon d'être proxénète d'une très jeune fille.
En tout cas, on risque moins, et puis comme les filles ne portent jamais plainte, donc c'est tout bénef pour eux.
Il y a un vrai phénomène qui s'étend, c'est-à-dire qu'on avait rencontré quelqu'un d'une fondation qui était un ancien magistrat, qui était président de la Cour de cassation et qui nous avait alerté en nous disant, comme les trafics de shit sont saturés un peu partout en banlieue, que souvent il y a des accrochages, voire des assassinats entre bandes rivales, ils se sont déplacés
cannabis, hein.
Pour le cannabis, ouais. Ils se sont déplacés sur le terrain de la prostitution des mineurs collégiennes. Et pas seulement dans les quartiers, il faut surtout pas faire preuve de discrimination en disant c'est les quartiers, c'est la pauvreté, c'est la précarité, non. C'est partout. Parce que vous avez des gamines qui, à 14-15 ans, effectivement, comme le dit très bien le patron de la brigade de protection des mineurs, elles ont besoin d'une carte bleue pour louer un appartement Airbnb, elles ont besoin pour louer une chambre d'hôtel, pour louer un taxi, etc. Donc, mais ces garçons-là, si vous voulez, ils ne se considèrent pas non plus comme des proxénètes. C'est-à-dire qu'ils sont dans un rôle, je t'aide, je t'accompagne. Si je peux prendre un petit billet, c'est ce qu'ils disent, au passage, je le fais. Mais ça ne va pas plus loin. Donc c'est pour ça que c'est très, très, très compliqué pour la police d'attaquer à la racine le mal et de se dire on va faire en sorte de combattre ce système-là et puis de l'abattre.
Parce qu'il s'agit aussi d'un phénomène récent, hein, qui a démarré il y a quoi, à peu près
Alors, on a une date, nous, parce que nous, on a essayé de comprendre, on a une date qui est 2012-2013. Et il se trouve, ça va faire hurler les gens, mais encore une fois, je vous dis, il faut être sincère, ça démarre avec la multiplication des émissions de télé-réalité à partir de 17h-18h sur les chaînes qui sont accessibles aux adolescents. Toutes ces gamines qu'on a vues, Nadège peut le confirmer, toutes ces gamines sont fascinées par la télé-réalité. Un jour, on n'était pas loin d'ici, dans un café, on rencontre une des jeunes filles qu'on a interviewées et qu'elle comprend qu'on est journaliste. Et la première des questions qu'elle me dit, elle me dit, est-ce que tu peux me faire participer à un casting? Alors moi, j'imaginais un casting de fiction, de documentaire. Pas du tout. C'était les Ch'tis à New York, c'était les anges de la télé-réalité. Voilà, elle rêve d'avoir des grosses poitrines, d'avoir des couleurs de rêve, de pouvoir se maquiller, d'avoir du fric, de partir à Los Angeles, en Australie, etc. Et donc, ça part de là. Et les émissions de télé-réalité se sont multipliées à partir de 2012-2013, et les chaînes ont compris, les chaînes privées, qu'il fallait les passer quand les gamines sortaient du collège, c'est-à-dire à partir de 17h.
Raphaël Constant, vous avez rencontré une autre maman dont la fille se prostitue.
Oui, une maman que l'on appellera Marie, 60 ans, et qui est cadre supérieur. Elle et son époux vivaient dans une banlieue pavillonnaire au sud-est de Paris quand tout a dérapé. Au fur et à mesure des années, les événements se sont enchaînés à tel point que Marie a un peu perdu le fil aujourd'hui. Mais comme elle me l'a confié, elle n'a jamais perdu l'espoir de retrouver son adolescente. Aujourd'hui, elle vit seule avec sa fille, qui est rentrée après des mois de fugue. Mais sortir de la prostitution prend du temps, puisque à peine revenue chez elle, la fille de Marie a replongé.
Bon, ma fille, ça a commencé vers 13-14 ans. Ma fille a eu du harcèlement. Je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans ce collège, donc j'ai voulu la changer d'établissement. Et j'ai trouvé un internat. Et en décembre 2014, elle a fait une véritable dépression. Je pense qu'en plus, elle était harcelée par un gars qui voulait coucher avec elle. Elle ne la voulait pas. Il a insisté pour avoir une photo qu'elle a envoyée, une photo d'elle pas habillée. Et il a fait circuler sur les réseaux sociaux. Et elle avait des tentatives de suicide. Au cours de l'hospitalisation, elle a été repérée par un gars qui l'a présentée à une bande. Quand elle est sortie de cet hôpital, elle était à la maison. Et la bande, elle venait à la maison. Et il y a eu la répétition réunion. Après ces viols, il y a un des gars de la bande qui est venu lui récupérer en disant « Est-ce que tu veux être ma petite copine ?» Lui, il ne faisait pas partie de la bande. À mon avis, c'était organisé, c'était commandité. Mais lui, non, il ne faisait pas partie des violeurs, par contre. Et c'est après ça qu'il y a eu prostitution. Moi, j'ai vu que ça n'allait pas du tout, puis mon mari aussi, mais voilà, on était assez démunis. Et après, bon, là, tout s'est enchaîné assez vite. Il y a eu fugue, il y a eu placement, il y a eu plein de choses. Ouais, on a su, oui, parce qu'on a tracé son Facebook. Après, elle est partie en fugue pendant des mois. Elle était déscolarisée, totalement déstabilisée, déstructurée.
Est-ce que vous l'avez cherchée? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, on l'a cherchée énormément. On a mis la police sur le coup. On s'est démené dans tous les sens. On a même pris un détective privé. Ça a été l'horreur, quoi. Elle pouvait être morte, elle pouvait être... On s'est rendu compte qu'elle avait continué sur la prostitution parce qu'on a vu des annonces sur un site où il y a plein d'annonces diverses et notamment des annonces dites de rencontres, mais qui étaient en fait clairement des annonces pour de la prostitution.
Dès qu'elle est revenue en mars, en avril, elle a recommencé, elle a rechuté. Et nous, on a été la chercher à ce moment-là, dans un autre département. Pour moi, tout est encore fragile. Hein. Elle ne peut pas mener encore une vie normale. Hein. Puis bon, elle a été hors des clous. C'est encore le cas, mais là, c'est en train de se normaliser petit à petit. Enfin, en juin, là, j'ai quand même découvert qu'elle est partie quand même 3 semaines et c'était encore la prostitution.
Donc elle a refugué récemment.
Ouais. Elle est partie en me disant « Non, je suis à la plage, je suis en vacances, dans le sud de la France. »
C'est-à-dire que vous êtes tombée sur des messages, c'est
voilà.
ça ?
Je suis tombée sur des messages, je suis tombée sur des annonces.
Et quand vous en discutez avec elle, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre fille ?
Elle dénie un peu, enfin, elle n'en parle pas.
Et comment vous réagissez par rapport à ça ?
Je lui dis « Je t'interdis de le faire, c'est très mauvais pour toi, je t'interdis. » J'ai changé le numéro de téléphone tout de suite. Je peux pas faire autre chose, hein. Je peux pas l'attacher. Les gens me disent hey, mais si elle sort le soir, faut pas que tu la laisses sortir. Oui, elle a presque 18 ans. Déjà à 14 ans, elle sortait comme ça. Je vais faire la menotter au radiateur. Enfin bon, tout ça est très fragile. Elle est quand même suivie. Elle a une éducatrice qui la suit. C'est ce qui s'appelle une aide éducative en milieu ouvert. C'est aussi le juge des enfants qui préconise ce dispositif.
Mais est-ce qu'en tant que parent, on se sent coupable ?
Bah oui, forcément. Déjà, de ne pas avoir pensé que ça pouvait arriver. Puis on a un tel écart d'âge aussi, on a quand même 45 ans d'écart avec notre fille. J'ai pas pensé que l'adolescence était le moment de tous les dangers. Ça, je m'en veux beaucoup. Je me dis, mais t'as pas réfléchi là. Puis viol et prostitution, je me dis, il va pas s'en remettre comme ça. Hein. Ça va être des années, il va falloir... Mais je ne lâche pas l'espoir, quoi, voilà.
Comment l'en sortir alors ?
Bah déjà, faut pas juger, ce qui est très difficile. Hein. Je pense que toutes ces jeunes filles, bien qu'on dise qu'elles sont volontaires et qu'elles veulent y aller, sont victimes de plein de choses. Et aussi de notre société hyper capitaliste où on se prostituerait pour avoir un sac Vuitton ou un sac de marque, enfin bref. Mais que les victimes, c'est elles qui sont pointées du doigt. C'est très particulier.
Et vous, justement, comment vous avez géré le regard des autres sur cette situation et sur votre famille ?
Ben moi, ça a été ambivalent. Parfois, je me disais, mais je vais la défoncer, là, j'en peux plus, je ne veux plus la voir. Je criais dessus, encore maintenant, j'y arrive, je suis épuisée. Enfin, j'ai jamais lâché. Je me suis toujours dit qu'elle allait s'en sortir, qu'elle était quelqu'un de bien, au fond, et qu'elle aurait une belle vie quand même. Mais voilà. Il faut tenir. Alors j'ai été arrêtée en maladie plusieurs fois. J'ai eu des moments où j'étais très bas, mais j'ai jamais lâché. Bah, c'est-à-dire que j'aime ma vie. Alors, une certaine responsabilité, mais je la mets pas en responsable principale de tout ça.
Et malgré le fait qu'elle ait fugué pendant plusieurs mois et qu'elle soit retournée dans le phénomène de la prostitution plusieurs fois, jusqu'à récemment, vous pensez que vous arriverez à l'en sortir, à l'extraire de ce monde ?
Oui. Je suis obligée de penser ça. Ça me demande une espèce de surveillance. Je mets des limites. Ou quand elle sort, j'ai dit bah, tu sais que je suis pas d'accord. Et puis elle sort quand même. Mais je pense que quand on a subi des traumatismes si graves, c'est difficile. Hein. Ça va être long.
Nada Joubert et Claude Ardide, alors vous avez rencontré plusieurs jeunes filles qui se livrent à des actes de prostitution. On a bien compris, parce que vous nous l'avez expliqué depuis le début, que ces jeunes filles ne parlent pas de prostitution, que les jeunes garçons qui les protègent entre guillemets ne parlent pas de proxénétisme qui tomberait sous le coup de la loi. Qu'est-ce que vous avez compris sur leur motivation dans le fond, tous les deux ?
Ça fait partie aussi des maux de l'adolescence et de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Les codes, c'est-à-dire l'argent facile, c'est vrai que la télé-réalité...
Même si on est d'accord que toutes ces jeunes filles que vous avez rencontrées ne vivent pas en situation de grande pauvreté.
Non, hein, pas du tout. Pas du tout, il n'y a pas de motivation d'argent, elles ne sont pas en survie, enfin, il n'y a pas ce genre de motivation. Donc en fait, c'est plutôt la société telle qu'elle est aujourd'hui, avec évidemment l'apparence aussi.
Ouais. Il y en a une qui dit d'ailleurs dans votre documentaire, alors bien sûr elles sont filmées de dos, on ne les voit pas, il y en a une qui dit « j'avais envie de gagner mon argent comme une grande sans demander à ma mère ». Mais c'est le propre de l'adolescence d'être dépendant financièrement de ses parents, hein. Donc c'est un refus, c'est...
Moi, je vais aller plus loin parce que, si vous voulez, ce qui m'avait vraiment surpris, parce que quand vous êtes confronté à ces gamines-là, très sincèrement...
Des enfants, précisément.
Des enfants, hein, c'est-à-dire qu'elles ont commencé pour la plupart à 13-14 ans, donc comme ça dure depuis longtemps, aujourd'hui, elles ont 16-17 ans, voire elles sont majeures. Très sincèrement, à deux ou trois reprises, on a été confronté, Nadège et moi, avec le réalisateur, avec Alexis, à ces gamines. Il y avait des moments où, je vous jure, que la main me démangeait, parce que j'avais envie... soit de leur taper sur le genou en disant « bon, arrête, parce que c'est insupportable ce que tu dis », soit vraiment, il y a eu des moments d'énervement, parce qu'elles étaient dans le déni de tout. Et qu'en même temps, si vous voulez, il y avait à la fois ce sentiment d'ivresse lié à la liberté. On est libre, on va où on veut, on fait ce qu'on veut. Évidemment, on échappe à l'école, on échappe à la structure familiale, au cocon familial, etc. Puis l'adrénaline, c'est-à-dire que quand vous êtes en marge de la société, des parents, du collège, des infrastructures, des associations... que toutes les gamines font, elles font de la danse, font du sport, etc. Mmh. Elles échappent à tout.
C'est ça. Et le sexe est finalement mis sur le même plan. C'est-à-dire que c'est assimilé à un acte qui est tout à fait banal, anodin. Bah, ça, c'est assez fascinant dans les témoignages, quand même.
En plus, le souci, en fait, au niveau de la sexualité, il n'y a pas d'éducation à la sexualité. Et en fait, leur seule façon d'apprendre, souvent, passe par les films pornographiques. Et ça, c'est un vrai problème, en fait. On n'a peut-être pas fait attention à l'impact que ça pouvait avoir sur ces gamins.
Il y en a garçons qui dit, comme les filles, avec mon petit ami, on a décidé qu'on allait monter notre propre réseau, enfin, comme s'il s'agissait d'un club de sport. Enfin, on voit bien qu'il n'y a pas de discernement.
Mais non, mais pourquoi voulez-vous qu'il y ait un discernement? Quand vous voyez les stupidités qui sont lâchées tous les après-midi...
C'est des gamines qui vont à l'école, hein, qui ne sont pas en rupture scolaire.
Alors,
au début.
Mais après, souvent, il y a rupture. Elles ne vont plus à l'école
parce qu'elles fuguent, elles rentrent, elles sortent, etc. Puis elles se montent la tête entre elles. Elles sont sur les réseaux sociaux en permanence. Elles ont accès, et là, nous, on a remporté quand même, c'est l'une des rares victoires qu'on a remportées, elles ont accès à des sites, ce sont des sites payants, on ne citera pas les noms pour pas que vous ayez des problèmes juridiques, mais sur lesquels ces gamines payent 105 euros pour avoir une annonce, elles montrent leur corps en prenant un selfie, et elles passent une annonce. Alors, les flics ont raison de dire qu'en général, le sexe, on en parle du bout des lèvres, mais on en parle quand même, avec la tarification, etc. Et grâce à ces réseaux sociaux...
C'est parti, mais c'est
comme le Bon Coin, c'est pas le Bon Coin.
Il y a un site qui a fermé, en tout cas qui ne peut plus.
D'escorting.
Voilà. Néanmoins, ça ne règle pas le problème. Il y en a d'autres qui prennent le relais.
Tout à fait. Ça règle en rien le problème. En fait, on a l'impression qu'il y a une vraie hypocrisie par rapport à ça. Parce que quand on se rend sur ces sites, c'est assez flagrant. Hein. Il suffit de téléphoner, d'aller. Enfin, si la police pouvait aller au-delà aussi au niveau des lois, au niveau juridique, on pourrait peut-être vérifier. Mais apparemment, non.
Les clients ont parfaitement conscience qu'ils ont affaire à des jeunes filles mineures.
Pas forcément, parce qu'elles sont déjà bien formées. Donc comment reconnaître...
Physiquement, vous voulez dire.
Comment savoir si cette jeune fille a 16 ans, 18 ans? C'est pas possible.
Quand vous êtes, la première fois, on était dans un café, dans une brasserie de la Porte de Saint-Cloud. On voit débouler une jeune fille. Il y avait ses parents. Et quand je vois débouler cette jeune fille, je dis non, c'est pas possible, c'est pas elle, c'est pas la fille de nos témoins, de nos parents. Parce que cette gamine, elle avait 15 ans, mais en fait, elle en faisait 4-5 de plus. Et un jour, elle nous a donné rendez-vous dans un autre café qui est brasserie sur les Champs-Élysées, qui est un lieu là aussi où les gamines se retrouvent. On était dans une brasserie huppée, très classe, etc. Et on a regardé autour de nous et on voyait bien que les gamines qui étaient là, elles faisaient toutes 19, 20 ans, elles étaient très apprêtées, très habillées, avec des jolis sacs, très bien maquillées, etc. Mais on savait bien qu'elles avaient, allez, 15, 16 ans, et elles en paraissaient 3, 4 de plus, etc. Alors, évidemment, le client, d'abord, il ne demande jamais la carte d'identité s'il va chez une prostituée. En général, il préfère avoir des très jeunes filles. Et donc, si vous voulez, c'est pas de ce côté-là qu'on va trouver la vérité et qu'on va résoudre le problème. Donc, sentiment de liberté, réseaux sociaux, l'ivresse, l'adrénaline, etc. Et puis, il y a quelque chose que... Alors, moi, je suis pas pédopsychiatre, je suis pas non plus médecin, mais les pédopsychiatres qu'on a vus, on a vu notamment... une pédopsychiatre à Paris, dans les beaux quartiers, qui nous a dit que ces gamines, quand elles ont moins de 15 ans, quand elles se livrent à des actes sexuels, c'est mécanique. C'est-à-dire qu'elles ne ressentent pas vraiment de plaisir, elles ne sont pas amoureuses, évidemment, de leurs clients, donc elles n'ont pas le sentiment, si vous voulez, qu'elles basculent du bon côté ou du mauvais côté. C'est-à-dire que, voilà, je pratique 2, 3, 4, 5 actes sexuels, c'est abominable de dire ça, mais je n'ai pas le sentiment, si vous voulez, d'être prostituée parce que je ne ressens pas grand-chose, quoi. C'est plus tard, voilà. Après, il y a la relation avec le lover boy, c'est-à-dire qu'il y a le gamin qui a 15-16 ans, l'amoureux, le petit copain, le petit ami, qui sort avec, avec sa copine, et puis il dit, mais si tu sors avec moi, si tu pratiques une fellation, bah, tu vas le faire avec mes petits copains, et là, il prend de l'argent.
Là aussi, du côté de ces jeunes garçons, on peut se demander aussi qu'est-ce qui n'a pas fonctionné du côté de l'éducation sexuelle et de l'éducation à la vie affective,
tout court. Il n'y en a pas, en fait, à l'école, il n'y a aucune éducation à la sexualité. Normalement, c'est
relié
trois
à la vie affective.
Oui, mais normalement, c'est 3 séances par an.
Bah, pourtant,
c'est pas le cas. Ou alors, oui, on va apprendre la sexualité d'une souris. Enfin,
Alors, ces jeunes filles sont souvent en état de fugue, parce que du coup, évidemment, elles ne se prostituent pas en rentrant chez elles le soir, mais elles disparaissent pendant plusieurs jours. On a l'impression, puis elles reviennent, et puis on croit que ça y est, elles s'en sont sorties, et puis elles y retournent. On a l'impression que c'est un phénomène comparable à la façon dont les jeunes peuvent tomber dans les drogues dures, comme ça a été rapporté il y a plusieurs années déjà.
Mais en tout cas, on a l'impression que c'est une addiction. Ça agit de la même façon.
C'est-à-dire que c'est souvent lié à la consommation de cannabis, voire de cocaïne et d'alcool. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que je pense qu'un jour, on a, avec une jeune fille qui avait 15-16 ans, elle sortait du bureau d'un magistrat qui avait prononcé une peine qui lui était extrêmement favorable. C'est-à-dire qu'elle échappait à une espèce de surveillance, de l'aide sociale à l'enfance, etc. Donc, il y avait ses parents, on l'a accompagnée à la sortie du tribunal. Donc, on s'est dit, là, elle a la chance d'échapper à des strictes rendez-vous avec des magistrats, des éducateurs, etc. Et en sortant, elle nous a dit, est-ce que vous pouvez m'amener à la gare de Lyon, parce que je vais rejoindre mes copines 3 jours en vacances, etc. Et là, je lui ai dit non. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est-à-dire qu'elle sortait d'un tribunal où elle venait d'être... On lui avait dit, bon, maintenant, vous êtes sorti, vous avez fait le plus difficile. Mais non, elle retournait.
Elle-même ne tombe pas sous le coup de la loi, rappelons-le. Les clients ou les proxénètes. Mais alors, du coup, quelle est la réponse, la politique de prévention, la réponse pour les sortir de la prostitution des autorités de l'aide sociale à l'enfance, des juges, des éducateurs? Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Vous dites, vous, chape de plomb, omerta sociale, donc rien ne bouge?
En tout cas, on a l'impression que rien ne bouge. Au niveau des politiques, en tout cas, on ne voit pas d'amélioration, on ne voit pas de prise de conscience, on ne voit pas de débat public. Donc,
on avait rencontré deux parlementaires, ça fait un an et demi, 2 ans, qui avaient fait un boulot extraordinaire et puis qui avaient participé à des commissions parlementaires justement sur le problème de la prostitution des mineures collégiennes, des violences faites à ces jeunes filles, etc. Et ces deux parlementaires, qui étaient formidables, de droite et de gauche, était accablé, c'est-à-dire qu'on avait le sentiment qu'ils avaient essayé de remuer à ciel et terre, mais que tout le monde s'en foutait, il y a 2 ans, quoi. Je pense, si vous voulez, que dans ce problème, dans ce pays, c'est une éducatrice qui nous a dit ça, et qui avait une longue expérience de ce problème, je pense que dans ce pays, on a peur de parler de sexualité, encore plus à nos adolescents. Elle, dans une réunion publique, elle avait été beaucoup plus cash, elle a dit, on en a marre, personne dans ce pays ne sait parler de cul à nos adolescents. Je m'excuse, je suis un peu vulgaire, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que dès lors qu'il faut parler, si vous voulez, d'affectifs, de relations sexuelles, de protection, etc., on ne sait pas le faire. Et donc, dans les écoles, alors moi, je jette pas la pierre aux enseignants, parce qu'ils ont d'autres problèmes à soulever souvent, mais dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, évidemment dans les petites classes, à l'école élémentaire, etc., on ne veut pas aborder ces problèmes-là. On ne veut pas aborder ces problèmes. Donc, si vous voulez, vous avez affaire à des jeunes dont le premier rapport au sexe, c'est ou la télé-réalité, ou le film pornographique, ou les histoires de cours d'école, où tu vas aller pratiquer une fellation sur mon copain et tu vas voir, c'est super agréable. Donc, qu'est-ce que vous voulez qui change?
Et puis, on n'aide pas financièrement les personnes qui pourraient justement aider, comme certaines associations qui sont sur le terrain, qui rencontrent ces gamins et ces gamines.
Alors,
on les aide pas.
Politiquement, pour l'éducation nationale, même si Jean-Michel Blanquer semble s'être saisi du sujet, sur le sujet non pas de la prostitution des lycéennes et des collégiennes, mais de l'éducation sexuelle, mais en même temps, politiquement, l'expérience a montré qu'il n'y avait que des coups à prendre, aussi bien du côté des milieux conservateurs, ça peut être des familles issues de l'immigration maghrébine, très pratiques, ou des milieux catholiques. Enfin bref, à chaque fois, ça dérape.
Mais il faut s'en affranchir. À un moment donné, on parle de mineurs, on parle de gamins, de gamines. On ne peut pas céder à ces pressions-là.
Que font les autres pays européens, puisque ça n'est pas un phénomène spécifique à la France?
Non, c'est pas un phénomène, c'est d'ailleurs très très inquiétant. C'est-à-dire que, par exemple, la prostitution en Belgique, en Allemagne, voire en Irlande, en Suisse, on a des gamines, par exemple, on avait rencontré des éducateurs qui étaient à la frontière de la France et de la Suisse, on avait des gamines, excusez-moi encore, je vais utiliser le terme, mais c'était ça, il y avait des gamines françaises qui avaient moins de 15 ans et qui allaient dans ce qu'on appelait des cafés pipes. C'est-à-dire qu'on allait pratiquer des fellations de l'autre côté de la frontière, alors je sais pas si c'était à Genève ou à Lausanne, et passaient leur samedi après-midi, elles revenaient avec 200-300 euros. Donc, si vous voulez, moi j'attends rien Enfin, c'est pas que j'attends beaucoup de la France et de l'Europe, mais on est confronté à des institutions qui ne veulent pas aborder le problème. Tant que vous n'avez pas une révolte des parents, tant que vous n'avez pas une révolte des enseignants, des assistantes sociales, des infirmières, qui tapent du poing sur la table et qui font des tribunes libres dans les journaux, qui parlent. Pourquoi est-ce qu'on a tous eu des difficultés
dans les établissements scolaires aujourd'hui?
C'est
tout le monde est informé.
Mais bien sûr.
De plus en plus.
Quand on a vu les 200 éducatrices, éducateurs, psy, etc., invités par la mairie, qui étaient là, ils ont fait des jeux de rôle, etc., pour en parler, et qu'on leur a dit, mais parlez-en, regardez-nous dans les yeux, on vous floutera, on fera en sorte, etc. Vous dites, oui, mais ça existe, mais on ne veut pas parler, sinon, parce qu'ils ont peur pour leur boulot, parce que si vous parlez, ça veut dire que vous entachez la réputation d'un établissement, de prostitution, etc. Alors, si vous êtes dans le 17e, dans le 16e, dans les beaux quartiers de Paris, c'est même pas la peine d'en parler, et quand il s'agit de quartiers plus populaires, etc., on n'en parle pas, parce que tout le monde s'en fout. Il faut être quand même réaliste. Donc la seule victoire que nous, entre guillemets, c'est pas nous, c'est les parents, la seule victoire qu'on a remportée, c'est de fermer, si vous voulez, les annonces dites à caractère sexuel
d'un site internet.
Moi, ce que je voulais vous dire, si vous voulez, c'est que tous les parents qu'on a vus, parce qu'elle a fait un travail formidable, enfin, sincèrement, c'est un boulot de dingue, mais tous ces parents ont tout perdu. C'est-à-dire que la plupart du temps, ils se séparent entre eux, c'est-à-dire qu'il y a des divorces, ils perdent leur boulot, ils se retrouvent au chômage parce que toute leur vie est conditionnée par l'idée de sauver leur fille de la prostitution. Ils perdent tout, alors ils deviennent souvent cinglés. Nous, on a vu un père un jour qui nous a dit, il était devenu fou, un détective privé, il avait glissé une puce dans le téléphone portable de sa vie, il avait utilisé le service d'hacker pour essayer de comprendre par quel système informatique sa fille passait, etc.
Enfin, ça leur prend un temps fou. Hein,
Quelle chance ont ces jeunes filles de s'en sortir? Parce que sortir de la drogue, il y a des spécialistes, il y a des techniques, il y a l'aide de la médecine, de la psychiatrie, sortir de la prostitution quand on est tombé à un si jeune âge.
Alors là, c'est très compliqué, puisque ces gamines, en fait, vont peut-être commencer à s'en rendre compte, mais très tard. Niveau de l'âge. Après, il y a aussi une différence par rapport au milieu social. C'est-à-dire que si jamais vous venez d'un quartier, enfin d'un milieu plutôt aisé, vous avez des établissements, évidemment,
plus d'accompagnement, voilà. Notamment payant.
Voilà. Alors, ouais, si jamais vous venez d'un milieu défavorisé, vous passez par l'ASE, par les
l'aide
foyers.
L'aide sociale à l'enfance.
Et là, c'est pas possible. Quoi.
Certaines jeunes filles qui sont placées dans des foyers où il y a d'autres jeunes filles, voilà, qui elles-mêmes, ouais, se livrent à la prostitution.
Ouais, c'est un peu la quadrature du cercle. Moi, j'ai tendance à vous dire qu'en fait, si vous voulez, il y a deux choses. C'est que soit, à un moment donné, la gamine, elle prend des coups, mais au sens physique du terme, des violences, etc., et elle réagit en disant « c'est plus possible, il faut que je sorte de l'enfer dans lequel je suis tombé ». Soit vous tombez sur un tuteur qui va vous aider à mener votre propre résilience, soit les gamines tombent amoureuses d'un mec qui les sort dans l'enfer dans lequel elles se trouvent. Mais pour l'instant, hélas, c'est terrible à dire, mais il ne faut pas attendre grand-chose, si vous voulez, de la société, tant qu'elle n'aura pas pris conscience que ces gamines-là, elles sont plus que 8000 aujourd'hui, que ces gamines-là sont en souffrance totale et que ça devient un vrai phénomène dramatique.
Et l'urgence, c'est donc d'en parler. Merci en tout cas à tous les deux.
Merci à vous.
Claude Ardide, Nadège Hubert. Le documentaire s'appelle Jeunesse à vendre. Il a été produit par l'agence Kappa. Il en faudrait beaucoup d'autres de ce type. Merci à vous, Raphaël Constant, pour les témoignages. À la préparation de l'émission, Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous. À la réalisation, Romain Dubrac. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur RFI.fr et sur l'appli RFI Pure Radio. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera du couple, bref, d'une vie plus normale. À demain, les voisins et les voisines.